Bienvenue, mesdames, messieurs, à l'écoute du Poste National. Voici les titres du 17-18.
The population of Tiko and Mutengen expressed their gratitude to the Cameroonian government and Germany as the Minister of Decentralization and Local Development, Georges Langaubam, alongside the German ambassador, Dr. Corina Fricke, commissions a 1 billion CFA France water project in Mutengene today.
Pêche illégale, le fléau prospère tel un poisson dans l'eau. Conséquence, 20 milliards de francs CFA de pertes annuelles pour l'économie nationale et plus de 100 000 tonnes de produits halieutiques emportés par des navires étrangers. Comment s'organise ce déploi à la riposte? On en parle dans le focus du jour. Invité du 17-18, le directeur des pêches au ministère de l'élevage, le docteur Guy-Irénée Mimban.
Over 140,000 pupils today sat the first school leaving certificate exam and the certificat d'études primaires in the francophone subsystem of education across the national territory, with reports indicating a huge exercise despite some cases of absences recorded.
Et puis en sport football, la tanière affiche complet avec l'arrivée de Didier Lamkelze. Les Lions indomptables peaufinent leur préparation avec une troisième séance d'entraînement ce soir au stade militaire à Yaoundé. C'est en vue du match Cameroun-Cap-Vert le 8 juin prochain, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. C'est tout pour le sommaire. Merci de nous renouveler votre confiance. Nous recevons en ouverture de cette édition d'information Valérie Dikosumaru, le directeur des rédactions Radio de la CRTV. Bon après-midi, Valérie.
Bon après-midi, Larissa.
Nous recevons tout aussi bien le directeur adjoint, George Colomb. Good afternoon, George.
Good afternoon, Larissa.
Valérie, vous avez des décrets du président de la République.
Décret numéro 2024/191 du 4 juin 2024, ratifiant la convention de crédit acheteur d'un montant de 76 229 164,22 euros, soit environ 50 milliards de francs CFA, conclu le 30 janvier 2024 entre la République du Cameroun et la Standard Chartered Bank de Londres pour le financement du projet Planute, volet aménagement du territoire relatif à l'aménagement de 15 280 hectares de périmètre hydro-agricole dans les localités de Mbéré, de la Vina et du Faro et Déo, région de la Damawa Cameroun. Le président de la République décrète, article 1er, et ratifié la convention de crédit acheteur d'un montant de 76 229 164,22 euros, soit environ 50 milliards de francs CFA, conclu le 30 janvier 2024 entre la République du Cameroun et la Standard Chartered Bank de Londres pour le financement du projet Planute, volet aménagement du territoire relatif à l'aménagement de 15 280 hectares de périmètre hydro-agricole dans les localités de Mbéré, de la Vina et du Faro Edeo, région de la Damawa. Article 2. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 4 juin 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/191 of the 4th of June 2024 to ratify the buyer credit agreement for an amount of 76,229,164.22 euros, approximately 50 billion CFA francs, concluded on the 30th of January 2024 between the Republic of Cameroon and the Standard Chartered Bank of London to finance the Planute project regional development component for the development of 15,280 hectares of irrigated perimeters in the localities of Mbéré, Vina and Faro and Déo in the Adamawa region of Cameroon. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. The buyer credit agreement for an amount of 76,229,164.22 euros, or approximately 50 billion CFA francs, concluded on the 30th of January 2024 between the Republic of Cameroon and the Standard Chartered Bank of London to finance the Planute project, regional development component for the development of 15,280 hectares of irrigated perimeters in the localities of Mbere, Vina and Faro Edeo in the Adamawa region of Cameroon is ratified. Article 2. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 4th of June 2024. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
Décret numéro 2024/192 du 4 juin 2024 ratifiant la convention de crédit commercial d'un montant de 2 885 477 euros, soit environ 1,89 milliard de francs CFA, conclu le 30 janvier 2024 entre la République du Cameroun et la Standard Chartered Bank de Londres pour le financement du projet Planute volet aménagement du territoire relatif à l'aménagement de 15 280 hectares de périmètre hydro-agricole dans les localités de Mbéré, de la Vina et du Faro Edeo, région de l'Adamawa. Le président de la République décrète article 1er et ratifier la convention de crédit commercial d'un montant de 2 885 477 euros, soit environ 1,89 milliard de francs CFA, conclu le 30 janvier 2024 entre la République du Cameroun et la Standard Chartered Bank de Londres pour le financement du projet Planute, volet aménagement du territoire relatif à l'aménagement de 15 280 hectares de périmètre hydro-agricole dans les localités de Mbéré, de la Vina et du Faro Edeo, région de l'Adamawa. Article 2, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 4 juin 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/192 of the 4th of June 2024 to ratify the commercial credit agreement for an amount of 2,885,447.03 euros or approximately 1.89 billion CFA francs concluded on the 30th of January 2024 between the Republic of Cameroon and Standard Chartered Bank of London to finance the Planute project regional development component for the development of 15,280 hectares of irrigated perimeters in the localities of Mbere, Vina and Faro Edeo in the Adamawa region of Cameroon. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. The commercial credit agreement for an amount of 2,885,447.03 euros or approximately 1.89 billion CFA francs concluded on the 30th of January 2024 between the Republic of Cameroon and Standard Chartered Bank of London to finance the Planute project regional development component for the development of 15,280 hectares of irrigated perimeters in the localities of Mbere, Vina and Faro Edeo in the Adamawa region of Cameroon is ratified. Article 2. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 4th of June 2024. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
Thank you very much, George Kelong and Valérie Dikosomaru.
Le 17-18, c'est 60 minutes de nouvelles et d'actu prospective sur les grands moments de la nation. Le focus du jour. Le sport, l'actu internationale. Le grand reportage, l'interview et l'invité du 17-18 pour vous informer en direct du poste national de la CRTV.
La suite de l'actualité ce mardi avec les gouverneurs des banques centrales des pays de la sous-région et autres responsables des marchés financiers qui sont au Cameroun et se concertent depuis ce matin en marge de la 6e réunion du Conseil des ministres du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. Des rencontres placées sous la bannière du ministre des Finances qui a ouvert les travaux ce matin. Louis-Paul Motazeux, que vous allez écouter, revient sur tous les enjeux d'une telle assise.
Nous sommes dans un processus de rationalisation des communautés économiques en Afrique centrale. Nous avons la CEMA que vous connaissez, ces 6 États qui ont en partage le franc CFA, qui ont en partage une banque centrale qu'on appelle ABEAC, mais nous sommes 11. À la CEAC, c'est-à-dire à les autres. Ils n'ont pas la même monnaie, ils n'ont pas la même banque centrale. Ça va être une évolution par étape. Il faut d'abord créer la communauté. Si la communauté est créée, il y a maintenant des conséquences. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des banques centrales? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des marchés financiers? Et les deux textes que nous avons à examiner maintenant et à proposer au ministre après-demain, c'est justement comment faire. C'est pour ça qu'il y a un texte sur la haute autorité monétaire. Et maintenant, on dit « et bancaire ». Et puis le texte sur les marchés financier, comment on va travailler, comment est-ce qu'on va évoluer, c'est de ça qu'il s'agit.
A meeting of governors of central banks and key stakeholders of the financial chain in the Central African sub-region have met in Yaoundé to examine and validate some protocols that can foster and harmonize transactions in the financial system of the sub-region. It was opened by the Minister of Finance, Louis-Paul Motazeux, in the presence of the Minister Delegate to the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Paul Tasson. The meeting is one among several experts' meetings programmed ahead of the 6th session of Council of Ministers of the Steering Committee for the Restructuring of Regional Economic Committees in Central Africa to be held on the 6th and 7th of June 2024 in Yaoundé. Patience Wingo with details.
And validated by governors of central and national banks, as well as key stakeholders of the financial market in Central Africa, included one on high monetary financial policy of the Central African sub-region and another on the Central African financial markets. The protocols are technical frameworks that will prepare the sub-region for the different steps needed to have more integrated monetary policies and a vibrant financial market. One of the experts, Edward Norman Bigendako, who is the governor of the Bank of the Republic of Burundi, says the protocol on high monetary policy will be an asset that will take the sub-region through all the steps needed to achieve optimum financial integration.
We have to have a free trade zone, and then we have a customs union, and then a common market. This will enable to have more trade between our countries, which require some level of acceptability and convertibility of our different currencies.
He adds that it will integrate macroeconomic factors of all 11 countries of the Central African sub-region for a successful adoption of a common monetary union, especially given the disparity existing in currencies used by member countries.
What matters most is that we understand that there is a number of convergence criteria that have to be put in place by member countries before we attain this particular objective.
In his opening remarks, the Minister of Finance, Louis-Paul Motazeux, insisted that the protocols are very important to the process of making the monetary and financial markets of the Central African sub-region more fluid and dynamic.
In the following excerpt of an interview of Minister Louis-Paul Motazeux, he highlights the stakes of today's meeting of governors of central and national banks and stakeholders of the financial market from the Central African countries. He spoke to our reporter, Patience Wingo.
The most important thing I have to say and to focus on is the fact that, you know, we have two communities in Central Africa. We have what we call CEMAC. We have 6 states. We have the same currency. We have the same central bank. But we are 11 when we talk about what we call the CAC. We are 11 states. And now we would like to see how we could transform the two communities into one. And if you have only one community, there are some consequences as far as the currencies are concerned, because at the first day we will not have only one currency. The work will be to manage all the currencies that will exist within this new community. Now it's a meeting of experts, and on Thursday and Friday, the ministers of economy, the minister in charge of integration, and the ministers in charge of finance will gather so as to take the final decisions.
That was the Minister of Finance, Louis Paul Motsepe, talking to our reporter, Patience Wingo. And we have this bureau order to convene the National Assembly in ordinary session. The President of the National Assembly, President of the Bureau of the National Assembly, having consulted the President of the Republic, hereby orders as follows. Section 1, the National Assembly shall convene in ordinary session on Tuesday, 11 June 2024 at 11 a.m. Section 2, this bureau order shall be registered, published in English and French, and communicated wherever need may be. It is done in Yaoundé, the 4th of June 2024. For the Bureau of the National Assembly, the President of the National Assembly, Kaba Yege.
Cet arrêté du Bureau de l'Assemblée nationale porte en convocation de l'Assemblée nationale en session ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, président du Bureau de l'Assemblée nationale, arrête. Article 1er. L'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire le mardi 11 juin 2024 à 11h précise. Article 2. Le présent arrêté du bureau sera enregistré, puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. Fait à Yaoundé le 4 juin 2024 pour le bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Kaba Yege Djibril. Nous vous le disions en titre, de l'eau potable à flot pour les 80 000 habitants de l'arrondissement de Tiko dans la région du Sud-Ouest. Un système d'approvisionnement construit dans le cadre du programme de décentralisation FECOM Ville Moyenne, financé par la Banque allemande de développement, est opérationnel depuis ce mardi à Moutenguéné. Présent pour l'inauguration, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, mais également l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, son Excellence Corinne Fricken. Détail dans cette correspondance de Stéphane Talla, CRTV Sud-Ouest.
42 bornes fontaines raccordées à deux réservoirs forment le tout nouveau système d'approvisionnement en eau potable de Tiko. Grâce au programme de décentralisation FECOM Ville Moyenne, PDFVM, 80 000 habitants ont désormais l'accès aux précieux liquides. La joie est débordante et la gratitude du maire de Tiko profonde à l'endroit du gouvernement et du président de la République, Paul Biya. Financé par la Banque allemande de développement à plus d'un milliard de francs CFA, le projet est le fruit d'une coopération de longue date et continue, rassure l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, Corinne Fricken.
La semaine prochaine, on a des consultations intergouvernementales et la décentralisation va faire partie importante de ces consultations. C'est vraiment important d'être sur place, améliorer les perspectives et le mode de vie de la population.
Aux autorités municipales et aux populations, le ministre de la décentralisation et du développement local qu'a accompagné le gouverneur du Sud-Ouest demande d'assurer une bonne gestion des installations. Moutenguéné, Stéphane Talla, CRTV.
Et les bénéfices de cette initiative pour les populations locales sont énormes. Des dispositions sont d'ailleurs envisagées pour voir éclore des réalisations similaires, rassure le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, que je vous propose d'écouter.
Nous allons avoir de l'eau fournie en abondance pour la consommation courante, mais également pour une production agricole, pour une production en élevage. Nous allons avoir moins de problèmes de santé et nous allons avoir du développement. Nous encourageons le maire de la commune de Tiko et tous les maires des environs à prendre exemple sur ce qui a été fait aujourd'hui à Tiko pour qu'ailleurs, on assiste à de tels projets. Et je pense que l'implantation d'une base zonale ici à Tiko, qui va accueillir un parc d'engins de génie civil et d'hydraulique, va nous permettre d'avoir à plus grande échelle des réalisations de cette nature. Je voudrais encourager nos populations à continuer par la participation citoyenne à exprimer les besoins qui sont les leurs pour que les autorités municipales s'en saisissent et trouvent des solutions.
Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Parlons à présent des examens officiels. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ont démarré ce mardi 4 juin sur l'ensemble du territoire national. Et dans la région du centre, ils sont 53 763 candidats enregistrés. Température à 37 au soir de cette première journée de composition en Komotou 1, zone périphérique de Yaoundé, où s'est rendu notre reporter Marlise Enouambarga à Oumou de CRTV Centre.
Campus du lycée bilingue de Nkomtu 1. Il est 8h, les candidats au BPC affrontent la première épreuve écrite de la journée. 9h, c'est la fin de cette première épreuve et 30 minutes plus tard, la seconde est lancée. Tout se déroule sous le contrôle du chef de ce sous-centre d'examen, Sa Majesté Amougou Jean-Pierre.
Tout va très bien. Les candidats sont assez disciplinés. Nous avons eu un seul cas de maladie. L'infirmière de la maison a ramené le candidat dans de bonnes conditions.
203 candidats sont repartis dans 5 salles de classe sous l'œil attentif de la police d'examen.
Toutes les dispositions ont été prises. Le centre est dans un état de propreté. Un des leitmotifs du numéro 1 des enseignements secondaires, le clean school. Tout est propre. Et tout ce qui concourt à la réussite de l'examen a été mis en place, à savoir toutes les informations pratiques pour les candidats. Les surveillants et le secrétariat étaient présents, je crois, à partir de 6 heures.
Cette première journée va s'achever avec l'épreuve d'informatique théorique. Centre Marlise Nwambaragaumu, CRTV.
En ce qui concerne le First School Living Certificate et le certificat d'études primaires dans la région du Nord-Ouest, tout a démarré à l'heure dite dans les différents centres d'examen. Seulement sur les 33 046 candidats attendus, les officiels ont noté une centaine d'absences majoritairement dans le département du Nongamantum. Laurent Chissoubé, reportage.
Centre d'examen de l'école publique inclusive Bamenda Station. 59 candidats francophones et 338 candidats anglophones sont à l'assaut du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate depuis ce mardi matin. Jussie Serine est le chef sous-centre CEP.
À 8h moins 5, nous avons ouvert les épreuves devant les enfants et à 8h pile, on a commencé par la dictée question. Ça se déroule bien.
Ici, 7 cas d'absence ont été signalés au First School Living Certificate. Cependant, pas d'incident majeur noté sur l'étendue de la région. Les responsables de l'éducation de base dans le Nord-Ouest, pour s'assurer du bon déroulement de ces examens, ont tenu à sillonner certains centres dans le département de la Mésame, tout en restant en contact avec les délégués départementaux déployés sur le terrain. Kevin Ngola Jodzeka est le délégué régional Minédup Nord-Ouest.
Pour le First School Living Certificate, on a enregistré 2851 candidats. Et pour le CEP, on a 215 candidats. Ce qui vient de Nongamantum, qui ont enregistré environ 110 absents. Tout se passe bien.
Pour ce premier jour, plusieurs candidats se sont fait accompagner par leurs parents dans les centres d'examen. Le souhait de tous les acteurs est de voir ces examens s'achever sans aucune perturbation. Hop, Station Bamenda, Laurent Chissoubé, CRTV.
Sur un tout autre terrain, Maureen, parlons de propriété intellectuelle. Le directeur général de l'Organisation mondiale y afférente a été reçu par Félix Mbayou, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth.
That's right, Larissa. The World Intellectual Property Organization pledges to protect more of Cameroonian trademarks to preserve their originality. The director general of the organization was speaking today in Yaoundé after an audience with the minister delegate to the Minister of External Relations in charge of cooperation with the Commonwealth, Félix Mbayou. Charles Ebune reports.
Cameroon and the World Intellectual Property Organization have been collaborating for the past 62 years with the head office of the African Intellectual Property Organization based in Yaoundé to widen the scope of their cooperation for the enhancement of creativity and its protection. The Director General of the World Intellectual Property Organization on his maiden visit to Cameroon came calling to the Ministry of External Relations.
We're also talking about how IP can be supporting the heritage of Cameroon. We talked about famous geographical indications like Penja Pepper.
The Director General of the World Intellectual Property Organization, Darren Tang, of Singaporean nationality, was granted audience by the Minister Delegate to the Minister of External Relations in charge of cooperation with the Commonwealth, Félix Mbayou.
Thanks to Cameroon, and just 2 weeks ago, WIPO successfully concluded 25 years of very difficult negotiations on a new treaty that will respect the genetic resources and traditional knowledge of the indigenous peoples and local communities.
They also exchanged on the protection of Cameroonian trademarks for the preservation of their originality.
This is a country that has been at the crossroads of Central Western Africa, a country that is a microcosm of Africa, and the new description is that 237 the continent. So I'm very pleased. And maybe I've joked with the minister that I helped to trademark this new destination for Cameroon.
Amongst those present during the audience was the Secretary General of the Ministry of External Relations, Omaru Shimun.
As you heard in our headlines, inhabitants of the Southwest region have been reassured that more and more local development projects will be realized in the different municipalities in the region in the days ahead within the context of the ongoing decentralization process. The statement was made by the Minister of Decentralization and Local Development, Georges Elanga-Obam, while commissioning a portable water project for the towns of Tiko and Mutengene in the Southwest region. The minister was accompanied by the German ambassador to Cameroon, Dr. Corina Frieker, whose government sponsored the project through the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FICOM, to the tune of 1 billion CFA francs. Shortly after commissioning the water project, our reporter Henry McCulley of CRTV Southwest asked the Minister of Decentralization and Local Development, Georges Elanga-Obam, to explain how the project fits in the decentralization context. Here is an excerpt of his response.
Tiko has started with water. We have a base here. Hydraulic engineering that are going to be fixed here in Tiko. You are going to see water flowing all over the region. You are going to see roads repaired all over the region, other created. When decentralization is well organized, it produces local development. I talked to a lot of people here in Tiko and in Mutengene, and they told me they were very happy with the water that we are receiving today. It is that people were consulted. It is not just a policy people are talking about in Yaoundé. Go to the field and see the fruits of decentralization. We are going to see more roads, water, schools, health centers, and things like that.
That was the Minister of Decentralization and Local Development, Georges Elanga-Obam, talking to our reporter, Henry McCulley. About 148,000 pupils today sat the first school leaving certificate, and over 2,000 wrote the Certificat d'études primaires, CEP, nationwide. The first school leaving certificate is a gateway into secondary level of education. The exams started with mathematics, paper 1 and 2, and English paper 1 and 2 in a hitch-free manner. The Southwest region has recorded a 6% increase of pupils writing the 2024 session of the First School Leaving Certificate and Certificat d'Etudes Primaires examinations as compared to last year. Over 29,000 pupils sat the First School Leaving Certificate, while over 500 wrote the Certificat d'Etudes Primaires, CEP. The exams, according to basic education officials in the Southwest region, were written in a calm and serene atmosphere across the Southwest region. Over 30,000 pupils sat the 2024 session of the First School Leaving Certificate exams and the Certificat d'Etudes Primaires CEP in the Northwest region. Basic education officials have indicated that the examinations are ongoing smoothly, but for some cases of absences recorded hugely in Donga Mantong Division. Mabel Menkem Disakem reports.
Some 338 candidates from 10 schools are sitting the first school leaving certificate examination at Inclusive Government School, Bamenda Station. A total of 59 candidates from École Publique Francophone, Camp Militaire, are also writing the Certificat d'Etudes Primaires, CEP, in the same center. The Northwest Regional Delegate of Basic Education, Kevin Jadzeka, who has visited some of the examination centers, has stated that the exams are unfolding hitch-free, but for disturbing cases of absences recorded in Donga Mantong Division.
Calling from the other divisions, there is calm. The only problem where we don't know what is happening is in Donga Mantong, where close to 110 candidates are absent from the exam. But the case can also be the children have moved out of the region.
Some of the subjects written so far include mathematics and English language. Mabel Menkemdis Akem, CRTV News, Bamenda.
The first school leaving certificate exam and the Certificat d'Etudes Primaires examination in the French subsystem of education are unfolding smoothly in the Adamawa region. Officials of basic education indicate that some 20,048 pupils registered for CEP this year, while 3,250 candidates are going in for the first school leaving certificate across the region. Details on the unfolding of both examinations are compiled in the following report by Ellis Wajibanya.
At Government Bilingual Primary School Ngaoundéré, hosting the Ngaoundéré 2 Examination Subcenter, 572 candidates registered for the 2024 session of the First School Leaving Certificate. The exam is unfolding smoothly, despite the 12 documented absences, according to Mbongwe Josephine, the subcenter president.
Everything has been moving on smoothly since morning. We don't have any incidents here. They started with Mathematics 1 at 8 o'clock. After Mathematics 1, we had Mathematics 2, had English 1. Everything is in order.
A total of 3,250 pupils registered for the First School Leaving Certificate, while 20,048 others are taking the equivalent in the French subsystem of education, known as the Certificat d'études primaires. Across the Adamawa region, officials indicate that the exams are being taken unperturbed.
Adama Odette, épouse Diabo, sub-director of exam and competitive examination in Adamawa region. Everything is going well. We visited some center of exam. All the invigilators are there, candidates are there. Some are absent, but we have no problem in all the exam center.
Pupils with special needs are also taking the examinations with specific measures taken to accommodate all candidates across the region. Earlys Wajibalmia, CRTV News, Ngaoundéré.
And we have this bureau order to convene the Senate in its ordinary session. The president of the Senate, president of the Senate Bureau, after consulting the president of the Republic hereby, orders as follows. Article 1. According to the provisions of Section 4 of Law Number 2013/6 of 10 June 2013 on the standing orders of the Senate above mentioned and its subsequent amended instruments, the Senate is convened in its second ordinary session for the 2024 legislative year on Tuesday, 11th June 2024 at 4 p.m. Article 2. This bureau order shall be registered, then published in English and French wherever need be. Done in Yaoundé, the 4th June 2024. Signed for the Senate Bureau, the President of the Senate, Marcel Nyat Njifenge.
Arrêté du bureau du Sénat portant convocation du Sénat en session ordinaire. Le président du Sénat, président du bureau du Sénat, le président de la République consulté arrête. Article 1er, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi numéro 2013-006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat suvisé et ses modificatifs subséquents, le Sénat est convoqué en sa deuxième session ordinaire de l'année législative 2024, le mardi 11 juin 2024 à 16h. Article 2, le présent arrêté du bureau sera enregistré, puis publié et communiqué en français et en anglais partout où besoin sera. Fin Yaoundé, le 4 juin 2024, pour le bureau du Sénat, le président du Sénat, Marcel Nyat Ndifendi. Dans la suite du 17-18, la sensibilisation à l'échelle mondiale contre la pêche illégale non déclarée ou non réglementée a une résonance singulière au Cameroun où le fléau prend une ampleur alarmante. Dans le littoral, la pêche illégale continue de détruire des écosystèmes marins avec la disparition d'espèces aquatiques et la perte de ressources financières s'élevant à des milliards de francs CFA. Le gouvernement s'attelle activement à changer la donne. Marie-Gabrielle Fogueux de CRTV Littoral nous en dit plus.
Malgré les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics et les organismes internationaux, la pêche illicite continue de faire son lit sur le fleuve Vouri à Douala. Des activités qui bouleversent considérablement les écosystèmes et la chaîne alimentaire au Cameroun. Les experts parlent de véritables menaces sur l'exploitation durable des ressources aquatiques et la disparition de nombreuses espèces marines. Selon la brigade de contrôle et de surveillance des activités de pêche du Minépia, la lutte contre ce phénomène est montée d'un cran depuis 2023. Il est question de juguler la mauvaise gestion des ressources maritimes qui fait perdre au Cameroun 20 milliards de francs CFA par an. Les eaux du littoral sont le théâtre des pêches artisanales ou industrielles non contrôlées avec des navires pirates brandissant quelquefois des armes à feu. Ce sont ainsi quelques 70 000 tonnes de poissons qui sont bradées par an. À noter également les efforts fournis par de nombreuses ONG locales en collaboration avec le gouvernement camerounais qui permettent la structuration d'une documentation et des données pour mieux cerner le mal et y trouver des solutions adaptées. Marie-Gabrielle Mfegue, Douala, CRTV.
Et vous aurez d'autres statistiques sur la lutte contre la pêche illicite au Cameroun dans le focus du jour, ainsi que les efforts déployés par le gouvernement sous l'égide du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales pour contrer le fléau. Invité du 17-18, le directeur des pêches au Minipia, le docteur Guy Irénée Mimbong, à suivre dans la partie magazine de cette édition dans une dizaine de minutes. Le ministre des Transports porte à la connaissance de l'opinion publique dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation routière. En période de forte mobilité, des personnes disaient bien induites par le départ en vacances des élèves et la rentrée scolaire, il lance sur toute l'étendue du territoire national une campagne spéciale de prévention et de sécurité routière qui se déroulera du 5 juin au 30 septembre 2024. La campagne sera essentiellement axée sur le renforcement des mesures de sécurité routière et la répression des comportements à risque à l'origine des accidents. À cet effet, un accent particulier sera mis sur les excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool et des drogues, les chevauchements de la ligne continue et les dépassements dangereux, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, les surcharges, le défaut de visite technique, les mauvais stationnements. Le ministre des Transports rappelle à l'ensemble des usagers de la route, en particulier aux transporteurs, que les forces de maintien de l'ordre ainsi que les agents assermentés du ministère des Transports appliqueront rigoureusement les sanctions conformément à la réglementation en vigueur.
The Minister of Transport informs the general public that within the framework of the fight against road accidents in a context of high mobility of persons and goods induced by the holiday and back-to-school period for students, a special campaign to enhance road safety measures shall be launched throughout the national territory to run from 5th June to 30th September 2024. In this light, he prescribes the strengthening of road safety measures in order to curb risk factors, which are the major causes of accidents. As such, special emphasis will be laid on the fight against excess speed, fight against driving under the influence of alcohol and drugs, fight against trespassing of the continuous line and dangerous overtaking, mandatory fastening of safety belts, tightening mix controls in traveling agencies, impoundment of vehicles which does not have an authentic roadworthiness certificate, impoundment of spoiled or poorly parked vehicles with no appropriate signals, followed by the implementation of sanctions stipulated by the regulation in force. The Minister of Transport reminds all road users, especially transporters, that the forces of law and order, as well as certified agents of the Ministry of Transports, have been instructed to fully implement the sanctions in compliance with the regulation in force. Artisanal fishermen in the Ocean Division have decried the fishing activities of vessels, mostly industrial fishers, operating in violation of the law as it reduces them to the bycatch of other species, forcing damage to the environment by violating regulations that protect inhabitants or habitat. The Divisional Delegation of Livestock, Fisheries and Animal Industries of the Ocean Division says fish has become more scarce in the markets due to increased marine activities and pollution, and tougher regulations must be enforced to save marine biodiversity. Bruno Ndonwi Mfonwi tells us more.
Artisanal fishermen in Kwebi have been struggling with fishing lately. They have continuously complained of industrial fishing vessels probing into areas restricted to them, leaving them with very little to catch, causing scarcity in local markets. Serge Alonsiewe Siake is the Ocean Divisional Delegate for Livestock, Fisheries and Animal Industries.
We have those industrial boats who come here and settle for a long time. They know the period where fish come, and this period is the rainy season.
Local fishermen like Victor Ekwan and Dama Patrick Agador Sea. The nets go almost empty after days at sea, resulting in bycatch due to intense actions of illegal fishing. We have a lot of problems with these industrial fishers. They come to our areas and cut our nets. Sometimes we spend more than 3 million on fishing nets and industrial fishers tear them off. Those are three boats there with the nets gone. Illegal fishing has not only affected the local fishermen, but the biodiversity of the ocean and home consumption.
The first consequence is the scarcity of fish in our markets, because when they come and take our fish, they go away with it. Secondly, it's a type of threat for the survival of our traditional fishermen.
The fight against illegal fishing continues in the ocean's vision as fishermen continue to be educated on the importance of marine biodiversity conservation and deterring other actors in marine activities from polluting the ocean. Bruno Ndongwe Funye, CRTV, Kwibi.
Get a deeper understanding of the situation of artisanal fishing in Cameroon in an exchange with CRTV senior reporter TK Julius in Focus of the Day. And our guest on the 5 to 6, the director of fishing at Binepia, will elaborate on government's actions to fight against illegal fishing. This will be during the magazine segment of the 5 to 6. The Minister of State, Minister of Higher Education, Chancellor of Academic Orders, Professor Jacques Famendongo, informs the national and international public that the fourth ordinary session of the ad hoc technical committee in charge of the issuance of certificates under the Ministry of Higher Education will hold on Thursday, 6th June 2024, in the conference room of the Higher Teachers Training College of the University of Yaoundé 1 at 9 a.m. The main task of this body is the production of statistics regarding the award of certificates, setting up and securing a data bank for graduates of higher education. In attendance shall be officials of the Ministry of Higher Education, representatives of rectors and vice chancellors of state universities, private institutes of higher education, as well as establishments with a special status.
Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui présidera demain mercredi 5 juin 2024 dès 10h, les travaux des 112e et 113e sessions ordinaires de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger. Ce sera à la salle des actes de l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1. L'instance interministérielle, on rappelle, dont la vice-présidence est assurée par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, est chargée de proposer les équivalences nationales des diplômes, titres scolaires et grades universitaires étrangers, ainsi que la reconnaissance des écoles étrangères ou internationales dont les diplômes sont susceptibles de permettre l'intégration, le reclassement ou l'avancement dans la fonction publique camerounaise, selon les textes en vigueur. Et dans la perspective de l'inauguration officielle du centre hospitalier régional de Bertois et en vue de booster la campagne d'inscription des citoyens sur les listes électorales, Joseph Lay, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, par ailleurs membre du comité de pilotage de la plateforme pour le développement de la région de l'Est, convie toutes les forces vives de la dite région à une importante concertation qu'il présidera le mercredi 5 juin à partir de 17h dans la salle de conférence de l'immeuble siège de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Ceux des ressortissants de la région de l'Est résidant hors de Yaoundé pourront par visioconférence prendre part à cette concertation sur la base des coordonnées qui leur seront communiquées à cet effet. Et compte tenu de l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée, dit Joseph Lay, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. En religion, parlons du Hajj au bas de cette page. Hajj dans son organisation opérationnelle, notamment dans l'encadrement, la gestion et l'éducation des pèlerins lors de leur séjour en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Au Cameroun, ceux qui en ont la charge dans le déploiement de la Commission nationale du Hajj sont appelés encadreurs du Hajj. Qui sont-ils? Quels sont leurs rôles et difficultés dans cette tâche exaltante? Réponse avec notre envoyé spécial Daoud Moulium.
Les encadreurs du Hajj sont d'un rôle capital dans la gestion et l'éducation des appelés de Dieu pour la Mecque.
Ils entrent en scène dès l'enrôlement des voyageurs.
Mohamed Ouabi, président des encadreurs, c'est eux qui sont les personnes ressources qui enregistrent les personnes dans les plateformes et qui vont au guichet électronique régler leurs factures concernant tout un package. Il faut les suivre, il faut les éduquer sur le plan préparation du Hajj, sur le plan théorique. Et la pratique, on le fait de l'autre côté.
Madame Saïdou, Baba Jamila, encadreur, c'est d'expliquer les rites du pèlerinage, du pèlerin. Il y a des problèmes très personnels, il y a des femmes qui n'arrivent pas à parler de cela avec des hommes. Donc, on essaye de leur expliquer ce qui a lieu de faire.
Pendant les voyages, l'expertise et l'expérience des encadreurs rendent les procédures d'avant-embarquement plus fluides.
Il y a des parents, il y a des jeunes dans des coins reculés qui ne se sont pas habitués au voyage à l'extérieur. Et l'encadreur est là pour colmater les brèches.
La pratique est la même dans tous les pays impliqués dans le Hajj, qui s'accordent d'ailleurs sur certaines astuces efficaces.
Ces différents signes et couleurs, c'est pour s'identifier. Au Cameroun, nous n'échappons pas à la règle.
Une fois en Arabie Saoudite, les attitudes des pèlerins liées à leur transport, leur hébergement, leur nutrition et même les rites du pèlerinage sont balisées par des conseils et consignes d'application rigoureuse.
Abdel Menya Mustafa, pèlerin du Hajj 2024. Leur rôle ici à l'hôtel, c'est de vérifier si nous nous sommes bien installés, si on a bien mangé, s'il n'y a pas un cas de maladie.
Le ministère de l'administration territoriale, à travers la Commission nationale du Hajj, voit en ces acteurs des ambassadeurs de la bonne image du Cameroun en Terre Sainte. Pour le Hajj 2024, ils sont 73 encadreurs camerounais. Amadou Falama, Daoud Moulioum, CRTV, à Médine.
The 5 to 6 p.m. is 16 minutes of news and information about major happenings in the nation. Focus of the day. Sports, world news, in-depth report, investigative news report, the interview, the 5 to 6 p.m. guest, and much more on the radio network of the CRTV.
Le 17-18 rendu à sa partie magazine qui revient ce mardi sur la pêche illégale. L'activité prospère au Cameroun avec un nombre croissant de navires appartenant à des sociétés étrangères aux antécédents de pêche illégale qui battent pavillon vert ou jaune. Les dégâts sont énormes, un peu plus de 20 milliards de francs CFA de pertes annuelles au compteur pour l'économie nationale, mais également plus de 100 000 tonnes de produits halieutiques emportés. En contexte de promotion de l'import-substitution, cela remet au goût du jour la nécessité d'optimiser la pêche artisanale, véritable niche d'opportunité pour l'import-substitution. Alors comment relever le défi? Question au centre du focus du jour avec Teke Julios qui a fait quelques recherches sur le studio et nous a retrouvés dans ce studio justement.
On our focus of the day, Larissa, the fishing sector in Cameroon, despite the country's enormous potential, contributes just well over 3% of the country's gross domestic product, employing between 15,000 to 20,000 people. On the set this afternoon to talk about artisanal fishing, a senior reporter, TK Julius. Good afternoon, Julius.
Good afternoon, Maureen. Good afternoon, Larissa.
It's nice to have you on the 5 to 6.
My pleasure.
Now, what is the global picture of artisanal fishing in Cameroon?
Maureen, artisan or artisanal fishing, as most people would like to call the activity, is not a very vibrant sector in Cameroon, though there are enormous potential to make Cameroon a great fish producer. With a marine coastline measuring over 420 kilometers, artisan fishing is highly limited to mangrove zones, lagoons, lakes, and artificial ponds. This is especially so given the huge presence of industrial fishing companies in Cameroonian waters, some of which carry out illegal fishing activities that undermine fish regeneration. The consequence is unfair competition between local fishermen and industrial fishing companies, capital flight with the country's heavy reliance on the importation of frozen fish to meet the shortfall in domestic production. The government has been working with associations and fish farmers to step up local fish production, which can be augmented to over 200,000 tons annually. For now, it is below 100,000 tons, with illegal fishing also accounting for 100,000 tons, which is enough for our local demand mooring.
Let's talk more on what could be done by the government to boost artisan fishing in the country.
Experts have suggested many solutions to address Cameroon's significant fish deficit for nutritional and income benefits to the population. The first has to do with increasing funding or subventions, which is vital to help local fishermen upgrade their fishing equipment like reels, floaters, feeders, and blades. Secondly, with climate change that is causing the degradation of fishing ecosystems, there is need for the government to strictly regulate industrial fishing, making sure actors respect fishing zones in the high sea while allowing the coastline to artisanal fishermen. Without being exhaustive, mooring, there is also much work needed in training to equip local fishermen with better fishing and conservation techniques. It is also important to note that actions are being taken by the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries to scale up training for sustainable aquaculture, conservation, and better marketing techniques to popularize fish farming in such a way that you, Maureen, and I can be interested in fish farming.
There is great need to step into fish farming to boost the sector. Julius, thank you very much for coming on the 5 to 6.
You're welcome.
To further understand the damaging consequences of illegal fishing, especially on Cameroon's economy and government's dragnet to combat the phenomenon, our guest on the 5 to 6 is the Director of Fishing at the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Guy Irene Mimbang. Follow his exchange with our Economic Desk editor, Oswald Medung, coming up in a moment.
Demain, mercredi 5 juin, est journée internationale de lutte contre la pêche illicite, une véritable gangrène contre laquelle se battent les États du monde, ou presque. Avec son importante richesse halieutique, le Cameroun n'est pas à l'abri de ses prédateurs qui rivalisent d'ingéniosité pour passer entre les mailles des filets avec des produits de pêche prohibés. Les pertes se chiffrent en termes de milliards de francs CFA. Et depuis quelques années maintenant, les pouvoirs publics, à travers le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, ont fait de la lutte contre la pêche illicite une priorité. Précision avec le directeur des pêches au Minipia, le docteur Guy Irene Mimbang, et l'invité du 17-18, entretien mené par Oswald Medung.
Docteur Mimbang Guy Irene, bonjour.
Bonjour, monsieur Medung.
Chaque année, le 5 juin, la communauté internationale marque un temps d'arrêt pour commémorer la journée internationale de lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée. Dites-nous déjà brièvement, c'est quoi la différence dans ces trois termes-là?
C'est un terme générique, en fait, pour exprimer l'ensemble des activités de pêche ou encore les activités connexes à la pêche qui sont mises en œuvre en violation des lois et des règlements qui gouverne cette activité de pêche. Si vous pêchez sans autorisation de pêche, sans licence ou sans permis de pêche, c'est de la pêche INN. Si vous pêchez dans les zones qui sont interdites de pêche, c'est de la pêche INN. Si vous pêchez avec des engins qui sont prohibés par la réglementation, c'est de la pêche INN. Ou encore, si vous pêchez sans déclarer le fruit de votre pêche, c'est également de la pêche INN. Donc, c'est un vocable global qui intègre toutes ces activités-là qui sont interdites par la réglementation.
Vu sous cet angle-là, on reconnaît qu'il y a des impacts de cette activité dans notre pays notamment, même si sur le plan international, ces impacts-là sont quantifiés et on voit les dégâts que cela cause. Dites-nous un peu, quelle est l'ampleur du mal au Cameroun?
Ce mal est un fléau global. Tous les pays font face à ce problème de pêche INN. Et en Afrique subsaharienne, qui nous intéresse plus, les évaluations économiques de la pêche INN situent les pertes autour de 1 à 1,5 milliard de dollars. Et chez nous également, c'est vrai qu'on n'a pas de chiffres clairs sur l'impact économique, mais nous savons que cette pêche-là agit négativement sur l'économie, surtout sur les populations riveraines, sur les pêcheurs qui vivent de cette activité, donc dans leur moyen d'existence. Également, c'est un impact sur la sécurité alimentaire. Mais la conséquence qui est la plus importante, c'est sur la durabilité de la ressource. Parce que lorsque vous faites la pêche, il faudrait bien que celle-ci puisse permettre aux générations présentes de pouvoir avoir du poisson, mais que les générations futures également puissent en avoir.
Quelles sont les zones au Cameroun où cette activité est le plus menée?
Véritablement, lorsqu'on prend le terme en lui-même, les pratiques non réglementaires sont menées pratiquement dans toutes les zones. Et effectivement, le rôle que le Minepia a, c'est de lutter efficacement contre ces pratiques-là. Ce sont des pratiques qui sont menées aussi bien par les pêcheurs industriels véreux, mais également par beaucoup de pêcheurs artisanaux véreux également. Donc c'est un problème global et le ministère a pris la mesure de ces fléaux dans notre pays et des actions sont actuellement menées pour lutter contre.
Concrètement, Monsieur le directeur, qu'est-ce qu'il y a comme action de mener sur le terrain?
D'abord, les actions sont multiples. Sur le plan institutionnel déjà, au ministère et à la direction des pêches, nous avons une brigade de contrôle, de surveillance des activités de pêche. C'est une brigade qui est dédiée, dont le rôle, c'est de s'assurer que l'activité de pêche est menée conformément à la réglementation en vigueur. La seconde chose, c'est que cette brigade, dans son déploiement, descend sur le plan d'eau et effectivement est accompagnée par l'armée, avec qui le Minepia a signé une convention pour pouvoir mutualiser les efforts de lutte contre la pêche INN dans notre pays. Maintenant, nous sommes en train de développer depuis quelques années une surveillance participative où nous impliquons les communautés riveraines de pêcheurs qui nous donnent des alertes pour permettre que nous puissions agir efficacement. Nous avons également développé ces dernières années une surveillance satellitaire des activités de pêche. Pour tout ce qui est bateau de pêche, bateau partant, pavillon camerounais, nous faisons leur suivi satellitaire avec l'AIS, qui est l'Automatic Identification System, qui nous permet effectivement de voir dans nos écrans où est-ce que ces bateaux peuvent se trouver. S'ils se trouvent dans les zones qui sont interdites, nous pouvons effectivement agir. Nous sommes en train de mettre en place actuellement un suivi également de ces navires sous licence, tous ceux qui ont la licence de pêche avec le VMS, le Vessel Monitoring System, qui va également permettre d'identifier ce que les bateaux sont en train de faire. C'est une amélioration de ce que l'AIS fait. Ça nous permet de savoir exactement l'activité qui est menée par un bateau en mer. Et ça, ça sera opérationnel au courant de l'année 2024. Parce qu'il faut dire que nous avons des postes de contrôle de pêche qui sont disséminés dans les grands débarcadères le long de la côte, mais également sur les plans d'eau intérieure, qui font en sorte que l'action de lutte de plus en plus soit efficace. Et nous avons un certain nombre de résultats qui sont positifs où nous voyons de plus en plus des navires ou alors des pêcheurs qui sont sanctionnés. Et avec l'armée également, nous avons il y a quelque temps saisi des navires étrangers qui étaient en train de pêcher dans nos eaux.
L'ambition au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, c'est quoi? Réduire drastiquement ce phénomène dans combien de temps?
Je ne pourrais peut-être pas vous dire exactement quel temps, mais les efforts sont en cours. Nous sommes en train d'acquérir des vedettes de surveillance pour donner beaucoup plus d'effets aux actions qui sont menées par la brigade de surveillance sur le terrain. Et avec tout ce qui est mis en place, la surveillance passive par mode satellitaire, ça va effectivement nous permettre de réduire à sa plus simple expression ce fléau-là dans notre pays.
Docteur Guy Irénée Mimban, merci d'avoir accepté d'être l'invité du 17-18.
C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez donné l'occasion de montrer au grand public tout ce qui est fait pour lutter efficacement contre la pêche INN dans notre pays.
Senior reporter Simon Lyonga is here in the studio, meaning it's time to talk sports on the 5-6. Hello, Simon.
Hi there, Maureen.
The Indomitable Lions of Cameroon have intensified training in Yaoundé ahead of Saturday's game against Cabo Verde. And you confirmed that all the players called to camp have answered present?
Certainly, Maureen. The last to arrive is Didier Lamkelze, the 27-year-old forward whose club FC Metz held him for the playoff tournament out there in France. He therefore prepares to honour his second cap for country after that of 2019. Didier therefore joins the others for the third training session that is ongoing at the Nguaikele Stadium in Yaoundé. For details on that, we go over to Ben Collins in Nyoiberuwa, who is on standby. Good evening, Ben.
Good evening, Simon, Maureen and Larissa. Welcome to the Military Stadium where the Indomitable Lions of Cameroon have settled for serious business. Players and staff arrived in the Military Stadium shortly after the heavy downpour and were welcomed by a jubilant crowd outside. They went straight for some physical work with the fitness trainer, Christophe Manouvrier. After the physical exercise, the players are now working in different groups. The goalkeepers, defenders, midfielders, and the attackers supervised by the different coaches. Only Raoul Danzabe, among the 29 players present, is working with the medical staff on the touchline. And judging from their facial appearances, the minds are already focused towards Saturday's crucial FIFA World Cup clash with Cape Verde. The Blue Sharks are expected in Cameroon from tomorrow. Simon, the tech training session of the Indomitable Lions ahead of Saturday's clash is on at the military stadium, from where I am signing out. Back to you.
Thanks very much, Noeberuo Ben Collins. Still in Cameroon's Group D, the Mediterranean Knights of Libya will play at home at the Matthias of February Stadium in Benghazi against the Dodos of the Mauritius. The Palancas Negras of Angola on their part will play at the 11th November Stadium in Luanda against Maureen, the Silangu Semnikati of Eswatini. That's the national team of Eswatini.
Okay, Simon, from football, let's talk cycling. Cameroon's Kamzong Clovis Abosolo doing a great job out there, still clad in yellow after yesterday's fourth lap of the 20th International Cycling Tour of Cameroon.
Good job, as you say, as the Cameroonian front rider keeps the leader's outfit despite finishing sixth today, losing valuable time on the general classification in favor of Algeria's Sahiri Ayoub, who is now just 22 seconds behind. CRTV's Irene Manti is on the race course with the details.
It was a sloppy ride this bright Tuesday morning as the 51 cyclists began the race at the Bagante Ceremonial Ground, whose kickoff was given by the first deputy's SDO for the day division, Mirens Gueni, in the presence of the mayor of Bagante, Eric Nyat. Riding through beautiful landscape made up of evergreen and savanna forest, the 51 cyclists all had one ambition: top the first position, if possible, grab the yellow jersey. Two breakaways were recorded along the way, one intermediate sprint and some mechanical falls encountered by some three cyclists. Along the way, Cameroonian cyclist, wearer of the yellow jersey, Clovis Kamzong Abesolo, fell off his bike to the panic of Cameroonians who had lined up the road to cheer the athletes. He was now overpowered by two Algerians, but as a lion that he is, he got up and braved the race to the end. At exactly 12:58 p.m., the first cyclist, Algerian-born Sahiri Ayoub, crossed the finish line at the Bafosa Ceremonial Ground, covering the race in 1 hour 58 minutes 4 seconds. Cote d'Ivoire came second and Algeria again third. Meanwhile, on the general classification table, Cameroonian cyclist from SNH Velo Club, Clovis Kamzoma Besolo, maintains the first position, covering the four laps of the race in 9 hours 47 minutes 48 seconds. He is seconded by Sahiri Ayoub from Algeria, while Ben Youssef Abdallah, still from Algeria, is third. The fifth lap of the cycling tour is scheduled for this Wednesday from Bafoussam to Konsamba in the littoral region. Christine Bihole, Francis Bell, Irene Mantayonge on special assignments on the race course in Bafoussam.
Thank you very much, Irene Manti. Simon, we now talk Sambo. Cameroonian athletes who represented the country at the African Championship return home.
All 12 of them came back home with a medal as Team Cameroon won 12 of those medals, 6 in gold, 3 silver and 3 bronze. This performance handed them a bronze finish behind Egypt and Morocco. One of the athletes clad in gold is the 98 kilograms African number one, Maxwell Nana.
It's very, very, very amazing to enjoy this gold medal after the very hard training session with my friends. It wasn't easy. The fight wasn't easy because I had the very big, big man to the final. But I know that it was supposed to be very hard and strong than me because it was very tall than me. And then I changed my game plan and yeah, God accept that everything's work out. And then after this competition, now we just plan to train more to start to wait the different competition who are coming, like world champion in November. We have Olympic Games. We have African Open Cameroon. We have so many competition, and then we need to be ready to the different one. And yeah, that's it.
That was Maxwell Nana, who won gold at the African Championship in Sambo out there in Cairo, Egypt.
Senior reporter Simon Lyonga, thank you very much.
My pleasure.
Mesdames et messieurs, ce journal s'achève. Principale information à retenir, Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en session ordinaire le mardi 11 juin 2024. Deuxième session ordinaire de l'année législative en cours. C'est la substance de deux arrêtés des bureaux des chambres signés de leur président ce 4 juin, Kabaye Guédjibril et Marcel Niat Djifendji.
The Senate has convened its second ordinary session for the 2024 legislative year on Tuesday, 11th June 2024 at 4 p.m., while the National Assembly has convened its ordinary session on Tuesday, 11th June 2024 at 11 a.m.
Le 17-18 co-présenté par Maureen Wanziwilai et Larissa Ngono sous la coordination de Florence Mocker, rédacteur en chef, rentre en gare. Mesdames et messieurs, nos programmes se poursuivent. Merci de rester sur le Poste National.